avec Benoît Marchal.
Bienvenue dans cet épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue.
Je vous emmène en Chine avec l'aide de Pascal Perret qui va nous parler d'un projet très original puisqu'en effet, il a photographié la Chine au Sténopée. Si vous vous souvenez de l'émission de novembre qu'on avait enregistrée avec Éric Marais, eh bien vous connaissez déjà le principe du Sténopée, c'est cette boîte qui photographie sur le principe ancestral de la caméra obscura. Tiens, j'en profite, petite parenthèse, si cette émission vous donne envie de faire du Sténopée, j'ai eu l'occasion il y a quelques semaines de monter la boîte qui accompagnait le livre d'Éric Marais, je l'ai monté avec ma fille et on s'est beaucoup amusé. D'autant que ma fille avait quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'y a pas les photos directement au dos de l'appareil. Et tant que je parle de livres sur des procédés alternatifs, le même éditeur vient de sortir un livre sur le Polaroid par Philippe Garcia. Et on en reparlera sans doute sur Déclencheur. Bref, revenons-en à l'émission du jour. Revenons-en au travail de Pascal Perret. Dans l'interview, vous allez découvrir sa démarche, la technique utilisée, de même que la découverte d'un pays. Soyez attentifs à deux choses. D'abord, comment Pascal dépasse ce qu'on pourrait percevoir comme des contraintes techniques du sténopée, comment elle les dépasse pour les intégrer dans sa démarche de création. Et ensuite, la réflexion sur le jeu, sur l'illusion que la photo permet de créer, notamment en jouant sur les volumes. Et je crois que c'est une réalité pour tous les photographes. On peut évidemment choisir de rendre compte de la réalité, mais on peut aussi se créer un monde, se créer une réalité. Et c'est clairement dans ce parti pris-là que se trouve Pascal Perret. Et notez-le, c'est sans trucage numérique. Cette émission fait partie des sujets qui ont été enregistrés il y a trop longtemps et que je n'ai pas eu l'occasion de diffuser l'an passé. Donc vous nous entendrez parler des boutographies, les rencontres photographiques de Montpellier, mais c'est de l'édition 2009 dont il s'agit. J'en profite pour vous signaler que le programme de l'édition 2010 des boutographies est disponible et on le retrouve notamment sur Déclencheur. Bref, cette série, elle a continué sa vie. Depuis l'enregistrement, Pascal l'a également présentée au Danggang Photography Festival en Corée et elle prépare d'autres projets, notamment à Lyon. On essaiera de vous tenir au courant de ces différentes expositions via le Wikinews si vous voulez suivre ses travaux. Dernière note avant de laisser partir l'interview, si vous avez choisi de télécharger la version podcast étendue, celle qui est prévue pour iPod, iPhone, iTunes et qui intègre un chapitrage et des images, jetez de temps en temps un œil sur l'écran pour voir les sténopées dont on parle pendant l'interview. Aujourd'hui, je suis avec Pascal Perret. Bonjour Pascal.
Bonjour Benoît.
Et on est là pour parler du travail que tu as fait en Chine, qui est exposé aux rencontres photographiques de Montpellier, les boutographies, qu'on a déjà évacué dans Déclencheur. Donc ce travail que tu as réalisé en Chine, il est intéressant sur plusieurs plans. D'abord, c'est un travail sur la Chine, c'est vrai que c'est un sujet qui est populaire pour le moment. Et puis tu as une technique assez particulière, tu travailles au sténopée. Comment est-ce que tu as démarré ce type d'approche avec le sténopée ?
Alors j'ai découvert le sténopée chez un photographe dont l'assistant m'a montré son travail. J'ai été fascinée par la photo qu'il m'a montrée. Il m'a présenté une photo de bouquet de tulipes et il y avait une vibration dans cette image qui faisait vivre ce bouquet. On sentait que c'était palpable. Il y avait quelque chose de fascinant. Donc j'ai rien compris à l'appareil dont il était question. Il a fallu qu'il me le montre. Et puis on m'en a offert un quelques temps après. Je l'ai regardé pendant longtemps. Je l'ai regardé pendant au moins un an. Sans rien faire, j'étais un peu impressionnée par cet objet. Donc cet objet qui est quand même un très bel objet, c'est une boîte en bois, un tout petit trou microscopique, c'est le pinhole. Et puis pas d'objectif, voilà.
Donc, oui, parce que le sténopée, on va quand même expliquer en deux, trois mots ce que c'est, parce que c'est important pour la suite du travail. C'est la chambre noire avec un trou d'un côté pour faire passer la lumière et un film de l'autre côté.
Exactement, c'est le principe de la caméra obscura. Avec un petit trou, tout petit pour ajouter de la définition à l'image, et un espace noir derrière ce trou-là. Mais il y a des sténopées qui sont énormes, il y a des photographes qui travaillent avec une caravane en sténopée, il y a des chorégraphes qui ont travaillé aussi au sténopée, on entend danser des danseurs dans une pièce très éclairée, et projection du ballet dans une salle obscure où se trouve le public. Donc la projection de l'image se fait inversée, c'est comme dans l'œil en fait.
Et alors il n'y a pas de mesure d'exposition, il n'y a absolument aucun des automatismes qu'on a sur un appareil normal parce que c'est vraiment la boîte en bois et pour faire l'exposition tu as un petit clapet même.
Voilà, j'ai un petit clapet de bois que je manipule à la main. Donc ça suppose que mon sténopée est parfaitement stable. Donc j'utilise un pied photo en général où je le cale avec des objets pour qu'il soit le plus stable possible. Et le temps de pose, en général, je le calcule dans ma tête. Et beaucoup au feeling, j'arrive aujourd'hui à évaluer le temps de pose. Les temps de pose sont très longs. La lumière, elle prend le temps de s'installer dans l'image. Et ça crée cette vibration dont je parlais au sujet du, du bouquet de fleurs. La caractéristique du sténopé, donc, en effet, il n'y a pas d'objectif, donc il n'y a pas de mise au point. Le sujet est net partout, mais jusqu'à l'infini. Net, légèrement, avec cette petite vibration qui est si caractéristique. Et puis, il n'y a pas non plus dans le sténopé de viseur. Donc, il faut élaborer son image dans sa tête, construire les perspectives dans sa tête, imaginer ce qu'on va avoir, ce qu'on va obtenir avec l'image finale. Ça dépend des boîtes, mais moi, je travaille avec des boîtes qui sont très grand angle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ces effets de perspective très fortes. On installe un espace dans la photo. Mmh. Alors, c'est peut-être un peu stupide de dire ça. Toutes les photos ont un espace propre, mais je trouve qu'elle est particulièrement parlante dans les photos sténopées.
Il y a une perspective. On va revenir sur les photos, mais tu en montrais quelques-unes là où tu peux jouer après sur les volumes, jouer sur les proportions. Et effectivement, il y a toute une perspective qui se construit.
Oui.
Et c'est une boîte faite maison ou c'est quelque chose qu'on achète ?
Alors, beaucoup de sténopistes fabriquent eux-mêmes leur sténopé. Le plus important, en fait, dans un sténopé, c'est la qualité du petit trou. C'est le petit trou qu'on appelle sténopé, en fait. Après, on l'adapte dans n'importe quel support. Il y a des gens qui les fabriquent dans des boîtes de conserve, dans des poubelles, dans des boîtes à gâteaux, dans des... on peut tout imaginer dans la bouche.
Enfin, on peut le faire soi, mais là, c'est quelque chose de joli, tu vois.
Ah, c'est un bel objet. C'est un bel objet en bois que je chéris.
Et pour le voyage en Chine, tu utilisais un modèle plus petit.
Oui, parce que, alors, donc, moi, j'ai appris à manipuler le sténopé avec une chambre 4-5, qui m'a permis d'apprendre très précisément les cadrages grâce au Polaroid que j'utilise pour mes cadrages. Et donc, avant de partir en Chine, je découvre le petit sténopé de voyage, je l'appelle comme ça. Encore une très jolie petite boîte en bois, dans laquelle je glisse un film 6-6. Et j'ai réalisé au retour, quand j'ai glané toutes ces images, que finalement, je maîtrisais assez bien cet appareil que je ne connaissais pas juste avant de partir.
Mais tu avais un pied, tu avais tout ça en voyage ?
J'avais un petit pied léger.
Un petit pied léger.
Oui, un petit pied léger. Mais très souvent, je le pose. Je le pose et puis alors l'intérêt du sténopé aussi, c'est que ça passe complètement inaperçu. C'est-à-dire que je peux prendre un café ou boire un petit thé dans une gargote et le poser tranquillement. Je ne suis pas inquiétée.
Tu es allée combien de fois en Chine ? Deux fois ?
Je suis allée deux fois en Chine. Alors, une première fois pour accompagner une équipe qui avait tourné un documentaire dans le Yunnan et à Pékin. Le Yunnan, c'est le sud-ouest de la Chine, sur les contreforts de l'Himalaya.
D'accord.
Il s'agissait d'accompagner une équipe qui a travaillé sur une minorité qui s'appelle les Nashi. Et donc, ça a été des très très belles rencontres dans des villages perchés à 2400 mètres. Pas de voiture, pas d'eau courante, évidemment, le minimum vital. C'était des très très belles rencontres, des très belles fêtes et voilà. J'en parle avec émotion parce qu'on a beaucoup partagé avec ce village.
Ce qui est étonnant, c'est que ce que tu me décris là, c'est absolument pas ce que tu as photographié.
Pas du tout. Le problème du sténopé, ce sont quand même ces longs temps de pause. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore choisi de travailler sur le portrait ou sur la figure humaine. En très gros plan, on a tendance à déformer les visages. Mm-hmm. Et puis sinon, il faut vraiment que le sujet soit très très immobile. Et c'est difficile d'obtenir ça de gens... je contourne le problème, comme je ne peux pas faire de portrait. Je ne suis pas dans ce fonctionnement-là, mais je sais qu'il y a des gens qui font des très beaux portraits au sténopé. Moi, je viens de la nature morte, puisque j'ai travaillé avec des photographes de nature morte. Je crois que ça fait partie de mon écriture au sténopé que de s'approcher très très près des choses. Le travail que je fais au 4-5, par exemple, c'est des natures mortes très très proches. Je vais jusqu'à effleurer le sujet, etc. Mmh. Et les images que je présente en général sont très narratives. Elles racontent des histoires. Donc c'est ce goût de l'objet qui m'amène à la nature morte.
Est-ce que tu recherchais les sujets que tu traites habituellement en France ou est-ce que qu'est-ce qui t'a fait dire, je m'arrête ici, je calme mon sténopé ?
D'abord, c'est la première fois que j'allais en Asie et j'ai été complètement fascinée. Et vraiment, je n'avais pas pour objectif de faire une série particulière. Le sténopé, pour moi, c'était un espèce de carnet de voyage. J'allais prendre des impressions, comme d'autres auraient fait ça en rédigeant un carnet de voyage ou en prenant des tas de photos avec un autre appareil. Moi, j'avais envie de faire ça. C'est une technique qui me convient bien aussi parce que j'avais vraiment ce besoin de silence, de me rendre disponible à tout ce qui se passe. C'est un peu un lieu commun que de dire ça, mais moi, ça m'a rendue muette, ces rencontres là-bas. La Chine est très variée, très diverse, il se passe des tas de choses, le meilleur comme des choses beaucoup plus difficiles à accepter. Il n'y a pas de personnage dans mes photos, mais il y a la représentation humaine. Il y a des tas de figurines que j'ai pu croiser au marché aux puces, un peu partout, dans les centres d'art, chez les gens. j'ai pris le parti de photographier des figurines. Alors, il y a une culture, je pense, en Chine, très forte de la figurine. On pense à l'armée enterrée de Xiang, tous ces soldats enterrés. Mmh. Moi, j'ai vu des gens négocier des pièces qui étaient encore toutes pleines de terre. Elles reflètent des facettes très variées, puisqu'on a des statuettes de Mao, des statuettes de la Révolution culturelle, etc. J'ai rencontré, par exemple, là, j'ai croisé cette... On est dans un centre d'art à Dachanze. Il y a une galerie, une petite galerie rouge qui fait un carré rouge au milieu de l'image. Et à la fenêtre de cette galerie, on aperçoit quelque chose qu'on ne croise jamais en Chine, un petit buste qui pourrait être au 19e français. Et puis en haut, il y a un portrait de Mao. Et puis à droite, il y a Van Gogh. Donc moi, ça m'a surpris. Je photographie ça. Il y a très peu d'évocations de l'Occident. Parce que j'ai constaté, moi, peut-être que d'autres gens soutiendront l'inverse, hein, mais l'Occident est présent avec son architecture, etc., toutes ses empreintes très modernes et un peu trop présentes d'ailleurs. Mm-hmm. Mais l'histoire de l'Occident, Van Gogh, ou un petit buste d'une 19e, un peu cœur, il n'y a pas ça. Alors j'ai fait ces photos sur deux voyages, parce que le fruit du premier voyage a été remarqué par Alain Sayag, qui m'a invité à exposer à la Biennale de Canton. En 2007, Canton en Chine, voilà, à Guangzhou. Donc, la série que je vais présenter à Montpellier est le fruit de ces deux voyages. Ce sont des natures mortes un peu insolentes, on peut dire. Là, on aperçoit un jeune militant de la Révolution culturelle, un buste, hein, qui est au marché aux puces, au milieu des cartons. On a l'impression que...
Il est extraordinaire, cette photo, parce qu'on a l'impression d'avoir le... Comme tu dis, le militant de la Révolution culturelle, il est entouré de cartons... Et quelque part, on a l'impression qu'il est écrasé par la révolution commerciale actuellement en Chine, par ce statut d'usine du monde.
On est absolument d'accord. Il faudrait que je retourne en Chine pour compléter cette série. Pour moi, elle est encore en progrès. Je voudrais mettre le doigt sur toute cette pacotille qu'on présente aujourd'hui pour... voilà.
Et puis, il y a une énorme variété, depuis le buste de Mao en comptable, que je ne retrouve pas, jusqu'à une certaine vulgarité, avec l'image de la prostituée qui se fait arrêter, mais qui est de nouveau un buste. Je veux dire, est-ce que ça a été un effort de trouver ça, ou est-ce
Non. Ah non, ça a été fait très spontanément. C'est un travail très spontané, en fait. Mm-hmm. Donc, ce Mao dont tu parles, qui est au milieu des potiches. Et alors, on dirait qu'il a taille humaine, mais en fait, il fait 30 cm de haut, avec ses grandes potiches qu'il dépasse très largement. Voilà, c'est ce côté un petit peu sarcastique qui me plaît. Mettre le doigt là-dessus, je me régale. L'arrestation de la prostituée dont tu parles, il s'agit en fait d'une statue des Gao Brothers, qui sont également photographes, qui ont exposé à Arles il y a 2 ans. Mm-hmm. Ils ont pris un fait divers, ils ont décidé de la reproduire en grandeur nature. C'est une pièce que j'ai vue à Dachanze. Alors évidemment, j'ai choisi un point de vue qui est très provoquant, mais c'est pas une photo qui cherche à être obscène. Ça raconte aussi d'abord toute la violence qu'évoque cette scène et cette prostituée qui est blanche comme neige, elle me touche. Il y a cette image-là qui raconte aussi beaucoup de choses. Il s'agit de deux boîtes posées sur un plan très réfléchissant qui est une table de nuit dans un hôtel. On voit les deux prises de part et d'autre du lit et deux boîtes rouges avec des personnages avec des masques à gaz. Ça raconte aussi tous ces problèmes de pollution que rencontre la Chine aujourd'hui. Et dans l'hôtel, je trouve sur des masques à gaz, on ne sait jamais. Je prends un malin plaisir avec le sténopé à bouleverser les échelles, à bouleverser les codes, les échelles. Et il y a une photo que j'aime beaucoup. Il s'agit de petites presses papier qui font 5 cm de haut. C'est ces petits blocs en résine dans lequel sont incrustées, là, des figurines de Mao. J'étais chez quelqu'un qui collectionnait les figurines de Mao, donc je me suis régalée, évidemment, dans sa cuisine. J'ai positionné ces petits presse-papiers devant la fenêtre. Et au final, on a l'impression d'être devant un étang, un plan d'eau qui réfléchit des énormes monolithes et qui se confondent avec l'architecture de la ville qu'on voit derrière.
Oui, parce qu'on voit la ville derrière, avec l'effet de perspective, la ville est toute petite. Et donc, on a l'impression, en première lecture, d'être devant une image monumentale de Mao.
Voilà, et en fait, c'est encore un gadget. Un gadget d'aujourd'hui, dans une cuisine, avec vue sur la ville.
C'est la personne qui t'a suggéré certaines choses?
Ah non, pas du tout. Non. Non, je fais les choses très discrètement et silencieusement, donc je m'échappe.
Et pendant qu'on te cherche, tu fais ton...
C'est un petit peu ça. Mais j'ai fait une vraie mise en scène pour cette image-là, mais dans cette série-là, il n'y en a pas particulièrement. C'est plutôt des images...
À la sauvette.
À la sauvette. Il faut prendre du temps quand même pour concevoir ces images-là. C'est-à-dire qu'il faut imaginer comment elle va se construire dans la boîte, dans le sténopé. Et en général, je ne double pas mes photos, puisque les temps de pose sont assez longs. Parfois, c'est 10 minutes. En général, je prends des pellicules suffisamment sensibles pour limiter le temps de pose. Mais 10 minutes, c'est quand même un certain temps. Donc, le déballeur au marché aux puces, qui rangeait justement son matériel, il a trouvé que ça durait un peu trop longtemps. C'est pas volé à la sauvette, parce qu'au sténopé, on ne peut pas voler à la sauvette. On peut prendre les photos discrètement, mais on prend le temps de les faire.
Tu es en lumière naturelle, ici.
Oui, toujours. La photographie au sténopé est très contraignante pour les gens qui sont extérieurs à l'univers du photographe, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe dans la mise en place. Dans...
Oui, il ne voit rien, il voit juste quelqu'un qui a posé une boîte.
Oui.
Il n'y a même pas d'image qui en sort.
Voilà.
Alors... Et on ne peut même pas regarder dans le viseur. Non, mais par rapport au code moderne, on a pris cette habitude d'une image...
Mais qu'on voit tout de suite, et même pendant le cadrage, on peut voir les images que les gens sont en train de cadrer. Alors que là, il y a, bon, c'est le principe de la photo argentique, mais en plus, il n'y a pas de viseur. Donc il faut être patient, c'est un travail de patience.
Oui, tu es dans une logique d'économie, tu ne vas pas en faire beaucoup d'images.
Voilà, voilà. C'est important ce que tu dis, parce que ça, c'est une démarche personnelle forte. Peut-être abondance, tout ça, c'est abondance d'images, ça me dérange beaucoup.
Tu joues sur des contrastes de couleurs forts.
Oui. Ça aussi, c'est un parti pris du sténopé qui est intéressant, je trouve, parce que les temps de pose sont très longs, je l'ai déjà dit, mais du coup, les pellicules, elles sont amenées un petit peu au bout de leur... Ça crée des torsions dans l'image. C'est un parti pris que j'aime beaucoup. J'ai fait des tout petits essais en noir et blanc, mais je trouve que le sténopé couleur a une richesse de chromie qui est exceptionnelle.
Mais tu me disais que tu aimais bien le tirage numérique ?
Oui, parce que, d'abord, pour une autre série, j'ai besoin de faire des petites retouches, parce que je fais des mises en scène dans lesquelles il y a toujours un petit bout de pâte à fixe qui sort ou quelque chose. Donc, j'ai dû utiliser la baguette magique du numérique pour gommer ces choses-là. Et j'ai voulu tester cette série sur la Chine, en tirage numérique, et sur du fine art, j'ai trouvé qu'il y avait un truc... c'était puissant, ça apportait encore à ce parti pris très coloré, très... Sans dénaturer l'image, hein, sans tirer sur les contrastes, mais on gagne en profondeur de couleur, en fait. Sur ces tirages que j'aime beaucoup aussi, hein, qui sont des tirages manuels, j'aime la douceur qui ressort de ces tirages-là. Avec le numérique, j'aime la profondeur des noirs dans les tirages fine art, qui contrastent avec les couleurs assez flash. Alors là, celui-là.
C'est une armée de petits soldats, garde à vous.
De petits soldats au garde-à-vous, absolument, qui s'allument, mais que j'ai pris de dos. Ils sont dans une galerie, pas très loin de la façade vitrée de la galerie. Donc, au travers de cette façade, on aperçoit la rue, avec un immeuble rouge derrière. Ces personnages sont eux-mêmes sur un socle rouge, et on les voit qui se reflètent dans la vitre. Et voilà, ils se saluent eux-mêmes, il y a une petite aberration qui me plaît. C'est vrai que j'aurais pu la photographier de profil, quelque chose plus descriptive. Qu'on voit la silhouette de profil, qu'on ait une meilleure lecture de ce groupe-là. Et j'ai pris le parti de leur faire tourner le dos. À vous d'imaginer la suite. Ils tournent le dos. C'est peut-être un temps révolu, peut-être. Moi, ce dont j'ai envie qu'on se souvienne, c'est ce sur quoi j'aimerais insister aussi, c'est ce qu'on peut faire dire aux images. Les photos peuvent raconter complètement autre chose de ce qu'elles sont. Tout à l'heure, on en parlait avec le petit presse-papier qui devient un monolithe monumental. Cette façon de se servir des bouleversements d'échelle pour créer une confusion qui amène à raconter une histoire. Voilà. L'histoire, elle est au-delà du sujet qui est photographié. Voilà.
Tu invites la personne qui regarde l'image et à prendre, comme toi, tu as pris le temps de construire l'image, prendre le temps de rentrer dedans, prendre le temps d'imaginer, comme tu disais à l'instant, à vous d'imaginer la suite. Quoi.
Oui, de se l'approprier et d'avoir sa lecture aussi, parce que moi, j'ai une lecture de ces images-là, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres.
Très bien. Pascal, merci d'avoir pris le temps de partager ta démarche et ton approche et ces outils très originaux que tu utilises.
Merci à toi aussi. J'étais très heureux de partager cette passion du sténopé. Je sais qu'on est nombreux aujourd'hui à avoir ce coup de foudre pour ces techniques anciennes appliquées à des outils très contemporains qui sont des pellicules qu'on a aujourd'hui qui sont magnifiques et qui peuvent être très très bien exploitées avec cet outil-là.
Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, effectivement, c'est que le numérique crée une résurgence de l'image qui amène les gens à venir explorer des choses qui étaient un peu à la marge, qui restent à la marge, mais qui le deviennent un peu moins quelque part.
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Il y a vraiment un truc là-dessus.